confortablement confinés, lisez ou relisez les plus belles pages de la littérature française. Écoutez dans la voix de grands comédiens Le Voyage de Jules Verne, Les Fleurs du Mal de Baudelaire, Victor Hugo et ses Contemplations ou encore Le Mariage de Figaro. Et révisez ses œuvres commentées avec le précieux concours des inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Vous avez moins de 18 ans, cette émission a été pensée pour vous aider à préparer votre oral du baccalauréat de français dans le cadre de l'opération Nation Apprenante. Chaque jour, sur France Culture, nous vous donnons à entendre et à comprendre un grand texte de notre patrimoine littéraire. Aujourd'hui, La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette.
Écoutez, révisez, Olivia Gesbert.
Après Phèdre de Racine et les fables de La Fontaine, on ne change pas d'époque, mais cette fois l'auteur est une femme. Même si les lecteurs ne l'apprendront que plus tard, en 1678, en effet, quand La Princesse de Clèves est publiée, le roman l'est anonymement. Nommée à 16 ans demoiselle d'honneur de la reine Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, son auteur, Madame de Lafayette, sera toute sa vie une habituée des salons littéraires. Parrainée par La Rochefoucauld, l'auteur des Maximes, elle va y côtoyer les plus grands écrivains de son temps. Épouse du comte de Lafayette, mari peu encombrant, plus vieux qu'elle et qui passe la majeure partie de son temps sur ses terres en Auvergne, elle mènera à Paris la vie qu'elle souhaite, une vie d'intellectuel libre. Dans ce roman, un siècle sépare l'auteur de ses personnages. L'action est datée, avec l'évocation de la mort accidentelle mais bien réelle du roi Henri II en 1559 lors d'un tournoi. Henri II, s'il n'avait existé, Madame de Lafayette l'aurait sûrement inventé. Mariée à Catherine de Médicis, notre roi de France néglige sa femme pour consacrer publiquement ses faveurs, son amour et sa fidélité à la maîtresse de son cœur, Diane de Poitiers. Ce couple, la romancière le donne en exemple dès les premières pages de La Princesse de Clèves, fascinée par cet amour fervent que rien, ni même le temps, ne semble pouvoir abîmer. De même, dans sa fiction, les sentiments et les devoirs sont en tension permanente. Après une longue description de la généalogie de la famille royale des Valois et de la cour du roi Henri II, dont Madame de Lafayette rappelle le faste et les intrigues permanentes, deux personnages fictifs entrent en scène dont on ne mesure pas tout de suite l'importance dans l'intrigue. Par la contrainte d'un ancrage historique, le texte tend vers le réalisme et s'éloigne du roman pastoral en vogue depuis le XVIe siècle. Présentés donc comme réalistes, les personnages n'en sont pas moins extraordinaires. À grand renfort d'hyperbole et de superlatif, Madame de Lafayette peint des êtres remarquables. L'auteur dessine aussi dans ce roman avec précision les émotions et les cheminements métaphysiques de l'âme. Son écriture suit à la trace la psychologie des personnages et ne ménage aucun des doutes qui précèdent leur prise de décision. L'usage du monologue intérieur va donc permettre au lecteur d'atteindre les psychés contrariés des personnages en proie aux troubles. Au début du roman, nous apprenons que la toute jeune Mademoiselle de Chartres, personnage qu'on nous présente comme une beauté parfaite, a été courtisée dès son arrivée à la cour par nombre de prétendants prestigieux. Cependant, des intrigues politiques et de vieilles rancœurs l'empêchent d'épouser les partis les plus avantageux. Le prince de Clèves a donc la voie libre pour demander sa main à la mère qui accepte. Mademoiselle de Chartres est contrainte de se soumettre. Deux éléments viennent alors surprendre le lecteur dans l'art du récit. La rapidité avec laquelle est traité le mariage, vous allez l'entendre dans l'extrait qui va être lu, et l'insistance de la narratrice à souligner l'absence de passion de la jeune mariée pour son mari, qui va contraster avec la passion pour le duc de Nemours. Sa présence en embuscade dès le début sonne comme un ultime rappel. Le trio amoureux va donc pouvoir se mettre en place. Que sait-on au juste du duc de Nemours? Qu'il est très beau, il est présenté en miroir comme un chef-d'œuvre de la nature, et qu'il a failli épouser la reine dauphine, Marie Stuart. Le duc de Nemours revient à la cour au moment même où Mademoiselle de Chartres y arrive. Et il ne se rend compte que lorsque Mademoiselle de Chartres est devenue Madame de Clèves, donc mariée et inaccessible. Ouvrez maintenant vos livres ou fermez les yeux. Et écoutez Jacques Gamblin lire pour vous La Princesse de Clèves, lecture enregistrée avec les moyens du bord par un comédien confiné comme nous tous.
Personne n'osait plus penser à Mademoiselle de Chartres par la crainte de déplaire au roi, ou par la pensée de ne pas réussir auprès d'une personne qui avait espéré un prince du sang. Monsieur de Clèves ne fut retenu par aucune de ces considérations. La mort du duc de Nevers, son père, qui arriva alors, le mit dans une entière liberté de suivre son inclination, et sitôt que le temps de la bienséance du deuil fut passé, il ne songea plus qu'au moyen d'épouser Mademoiselle de Chartres. Il se trouvait heureux d'en faire la proposition dans un temps où ce qui s'était passé avait éloigné les autres partis et où il était quasi assuré qu'on ne la lui refuserait pas. Ce qui troublait sa joie était la crainte de ne lui être pas agréable, et il eût préféré le bonheur de lui plaire à la certitude de l'épouser sans en être aimé. Le chevalier de Guise lui avait donné quelque sorte de jalousie, mais comme elle était plutôt fondée sur le mérite de ce prince que sur aucune des actions de Mademoiselle de Chartres, il songea seulement à tâcher de découvrir s'il était assez heureux pour qu'elle approuvât la pensée qu'il avait pour elle. Il ne la voyait que chez les reines ou aux assemblées. Il était difficile d'avoir une conversation particulière. Il en trouva pourtant les moyens et il lui parla de son dessein et de sa passion avec tout le respect imaginable. Il la pressa de lui faire connaître quels étaient les sentiments qu'elle avait pour lui, et il lui dit que ceux qu'il avait pour elle étaient d'une nature qui le rendrait éternellement malheureux si elle n'obéissait que par devoir aux volontés de madame sa mère. Comme Mademoiselle de Chartres avait le cœur très noble et très bien fait, elle fut véritablement touchée de reconnaissance du procédé du prince de Clèves. Cette reconnaissance donna à ses réponses et à ses paroles un certain air de douceur qui suffisait pour donner de l'espérance à un homme aussi éperdument amoureux que l'était ce prince, de sorte qu'il se flatta d'une partie de ce qu'il souhaitait. Elle rendit compte à sa mère de cette conversation. Et Madame de Chartres lui dit qu'il y avait tant de grandeur et de bonne qualité dans Monsieur de Clèves et qu'il faisait paraître tant de sagesse pour son âge que si elle sentait son inclination portée à l'épouser, elle y consentirait avec joie. Mademoiselle de Chartres répondit qu'elle lui remarquait les mêmes bonnes qualités, qu'elle l'épouserait même avec moins de répugnance qu'un autre, mais qu'elle n'avait aucune inclination particulière pour sa personne. Dès le lendemain, ce prince fit parler à Madame de Chartres. Elle reçut la proposition qu'on lui faisait, et elle ne craignit point de donner à sa fille un mari qu'elle ne pût aimer en lui donnant le prince de Clèves. Les articles furent conclus, on parla au roi, et ce mariage fut su de tout le monde. Monsieur de Clèves se trouvait heureux, sans être néanmoins entièrement content. Il voyait avec beaucoup de peine que les sentiments de Mademoiselle de Chartres ne passaient pas ceux de l'estime et de la reconnaissance, et il ne pouvait se flatter qu'elle en cachât de plus obligeant, puisque l'état où ils étaient lui permettait de les faire paraître sans choquer son extrême modestie. Il ne se passait guère de jours qu'il ne lui en fît ses plaintes. « Est-il possible, lui disait-il, que je puisse n'être pas heureux en vous épousant ? Cependant, il est vrai que je ne le suis pas. Vous n'avez pour moi qu'une sorte de bonté qui ne me peut satisfaire. Vous n'avez ni impatience, ni inquiétude, ni chagrin. Vous n'êtes pas plus touché de ma passion que vous le seriez d'un attachement qui ne serait fondé que sur les avantages de votre fortune et non pas sur les charmes de votre personne. Il y a de l'injustice à vous plaindre, lui répondit-elle. Je ne sais ce que vous pouvez souhaiter au-delà de ce que je fais, et il me semble que la bienséance ne permet pas que j'en fasse davantage. Il est vrai, lui répliqua-t-il, que vous me donnez de certaines apparences dont je serais content s'il y avait quelque chose au-delà. Mais au lieu que la bienséance vous retienne, c'est elle seule qui vous fait faire ce que vous faites. Je ne touche ni votre inclination, ni votre cœur, et ma présence ne vous donne ni de plaisir, ni de trouble. Vous ne sauriez douter, reprit-elle, que je n'ai de la joie de vous voir, et je rougis si souvent en vous voyant que vous ne sauriez douter aussi que votre vue ne me donne du trouble. Je ne me trompe pas à votre rougeur, répondit-il. C'est un sentiment de modestie et non pas un mouvement de votre cœur, et je n'en tire que l'avantage que j'en dois tirer. Mademoiselle de Chartres ne savait que répondre, et ses distinctions étaient au-dessus de ses connaissances. Monsieur de Clèves ne voyait que trop combien elle était éloignée d'avoir pour lui des sentiments qui le pouvaient satisfaire, puisqu'il lui paraissait même qu'elle ne les entendait pas. Le chevalier de Guise revint d'un voyage peu de jours avant les noces. Il avait vu tant d'obstacles insurmontables au dessein qu'il avait eu d'épouser Mademoiselle de Chartres qu'il n'avait pu se flatter d'y réussir. Et néanmoins, il fut sensiblement affligé de la voir devenir la femme d'un autre. Cette douleur n'éteignit pas sa passion, et il ne demeura pas moins amoureux. Mademoiselle de Chartres n'avait pas ignoré les sentiments que ce prince avait eus pour elle. Il lui fit connaître à son retour quelle était cause de l'extrême tristesse qui paraissait sur son visage, et il avait tant de mérite et tant d'agrément qu'il était difficile de le rendre malheureux sans en avoir quelque pitié. Aussi ne se pouvait-elle défendre d'en avoir, mais cette pitié ne la conduisait pas à d'autres sentiments. Elle comptait à sa mère la peine que lui donnait l'affection de ce prince. Madame de Chartres admirait la sincérité de sa fille, et elle l'admirait avec raison, car jamais personne n'en a eu une si grande et si naturelle. Mais elle n'admirait pas moins que son cœur ne fût point touché, et d'autant plus qu'elle voyait bien que le prince de Clèves ne l'avait pas touché non plus que les autres. Cela fut cause qu'elle prit de grands soins de l'attacher à son mari et de lui faire comprendre ce qu'elle devait à l'inclination qu'il avait eue pour elle avant que de la connaître, et à la passion qu'il lui avait témoignée en la préférant à tous les autres partis dans un temps où personne n'osait plus penser à elle. Ce mariage s'acheva, la cérémonie s'en fit au Louvre, et le soir, le roi et les reines vinrent souper chez Madame de Chartres avec toute la cour, où ils furent reçus avec une magnificence admirable. Le chevalier de Guise n'osa se distinguer des autres et ne pas assister à cette cérémonie, mais il y fut si peu maître de sa tristesse qu'il était aisé de la remarquer. Monsieur de Clèves ne trouva pas que Mademoiselle de Chartres eût changé de sentiment en changeant de nom. La qualité de mari lui donna de plus grands privilèges, mais elle ne lui donna pas une autre place dans le cœur de sa femme. Cela fit aussi que, pour être son mari, il ne laissa pas d'être son amant, parce qu'il avait toujours quelque chose à souhaiter au-delà de sa possession. Et quoiqu'elle vécût parfaitement bien avec lui, il n'était pas entièrement heureux. Il conservait pour elle une passion violente et inquiète qui troublait sa joie. La jalousie n'avait point de part à ce trouble. Jamais mari n'a été si loin d'en prendre et jamais femme n'a été si loin d'en donner. Elle était néanmoins exposée au milieu de la cour. Elle allait tous les jours chez les reines et chez madame. Tout ce qu'il y avait d'hommes jeunes et galants la voyait chez elle et chez le duc de Nevers, son beau-frère, dont la maison était ouverte à tout le monde. Mais elle avait un air qui inspirait un si grand respect et qui paraissait si éloigné de la galanterie que le maréchal de Saint-André, quoique audacieux et soutenu de la faveur du roi, était touché de sa beauté sans oser le lui faire paraître que par des soins et des devoirs. Plusieurs autres étaient dans le même état, et Madame de Chartres joignait à la sagesse de sa fille une conduite si exacte pour toutes les bienséances qu'elle achevait de la faire paraître une personne où l'on ne pouvait atteindre. La duchesse de Lorraine, en travaillant à la paix, avait aussi travaillé pour le mariage du duc de Lorraine, son fils. Il avait été conclu avec Madame Claude de France, seconde fille du roi. Les noces en furent résolues pour le mois de février. Cependant, le duc de Nemours était demeuré à Bruxelles, entièrement rempli et occupé de ses desseins pour l'Angleterre. Il en recevait ou y envoyait continuellement des courriers. Ses espérances augmentaient tous les jours, et enfin Lignerolle lui manda qu'il était temps que sa présence vînt achever ce qui était si bien commencé. Il reçut cette nouvelle avec toute la joie que peut avoir un jeune homme ambitieux qui se voit porté au trône par sa seule réputation. Son esprit s'était insensiblement accoutumé à la grandeur de cette fortune, et au lieu qu'il l'avait rejetée, d'abord comme une chose où il ne pouvait parvenir, les difficultés s'étaient effacées de son imagination et il ne voyait plus d'obstacles. Il envoya en diligence à Paris donner tous les ordres nécessaires pour faire un équipage magnifique afin de paraître en Angleterre avec un éclat proportionné au dessein qu'il y conduisait, et il se hâta lui-même de venir à la cour pour assister au mariage de M. de Lorraine. Il arriva la veille des fiançailles, et dès le même soir qu'il fut arrivé, il alla rendre compte au roi de l'état de son dessein et recevoir ses ordres et ses conseils pour ce qu'il lui restait à faire. Il alla ensuite chez les reines, Madame de Clèves n'y était pas, de sorte qu'elle ne le vit point, et ne sut pas même qu'il fût arrivé. Elle avait ouï parler de ce prince à tout le monde comme de ce qu'il y avait de mieux fait et de plus agréable à la cour. Et surtout, Madame la Dauphine le lui avait dépeint d'une sorte et lui en avait parlé tant de fois qu'elle lui avait donné de la curiosité et même de l'impatience de le voir. Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer pour se trouver le soir au bal et au festin royal qui se faisait au Louvre. Lorsqu'elle arriva, l'on admira sa beauté et sa parure. Le bal commença, et comme elle dansait avec Monsieur de Guise, il se fit un assez grand bruit vers la porte de la salle, comme de quelqu'un qui entrait et à qui on faisait place. Madame de Clèves acheva de danser, et pendant qu'elle cherchait des yeux quelqu'un qu'elle avait dessein de prendre, le roi lui cria de prendre celui qui arrivait. Elle se tourna et vit un homme qu'elle crut d'abord ne pouvoir être que Monsieur de Nemours, qui passait par-dessus quelques sièges pour arriver où l'on dansait. Ce prince était fait d'une sorte qu'il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu. Surtout ce soir-là où le soin qu'il avait pris de se parer augmentait encore l'air brillant qui était dans sa personne. Mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. Monsieur de Nemours fut tellement surpris de sa beauté que lorsqu'il fut proche d'elle et qu'elle lui fit la révérence, il ne put s'empêcher de donner des marques de son admiration. Quand ils commencèrent à danser, il s'éleva dans la salle un murmure de louanges. Le roi et les reines se souvinrent qu'ils ne s'étaient jamais vus et trouvèrent quelque chose de singulier de les voir danser ensemble sans se connaître. Ils les appelèrent quand ils eurent fini, sans leur donner le loisir de parler à personne, et leur demandèrent s'ils n'avaient pas bien envie de savoir qui ils étaient et s'ils ne s'en doutaient point. « Pour moi, madame, dit Monsieur de Nemours, je n'ai pas d'incertitude. » Mais comme Madame de Clèves n'a pas les mêmes raisons pour deviner qui je suis que celles que j'ai pour la reconnaître, je voudrais bien que Votre Majesté eût la bonté de lui apprendre mon nom. Je crois, dit Madame la Dauphine, qu'elle le sait aussi bien que vous savez le sien. Je vous assure, madame, reprit Madame de Clèves, qui paraissait un peu embarrassée, que je ne devine pas si bien que vous pensez. Vous devinez fort bien, répondit Madame la Dauphine. Et il y a même quelque chose d'obligeant pour Monsieur de Nemours à ne vouloir pas avouer que vous le connaissez sans l'avoir jamais vu. La reine les interrompit pour faire continuer le bal. Monsieur de Nemours prit la reine dauphine. Cette princesse était d'une parfaite beauté et avait paru telle aux yeux de Monsieur de Nemours avant qu'il allât en Flandre, mais de tout le soir, il ne put admirer que Madame de Clèves. Le chevalier de Guise, qu'il adorait toujours, était à ses pieds, et ce qui se venait de passer lui avait donné une douleur sensible. Il prit comme un présage que la fortune destinait Monsieur de Nemours à être amoureux de Madame de Clèves. Et soit qu'en effet il eût paru quelque trouble sur son visage, ou que la jalousie fît voir au chevalier de Guise au-delà de la vérité, il crut qu'elle avait été touchée de la vue de ce prince. Il ne put s'empêcher de lui dire que Monsieur de Nemours était bien heureux de commencer à être connu d'elle par une aventure qui avait quelque chose de galant et d'extraordinaire. Madame de Clèves revint chez elle, l'esprit si rempli de tout ce qui s'était passé au bal que, quoiqu'il fût fort tard, elle alla dans la chambre de sa mère pour lui en rendre compte. Et elle lui loua Monsieur de Nemours avec un certain air qui donna à Madame de Chartres la même pensée qu'avait eue le chevalier de Guise. Le lendemain, la cérémonie des noces se fit. Madame de Clèves y vit le duc de Nemours avec une mine et une grâce si admirables qu'elle en fut encore plus surprise. Les jours suivants, elle le vit chez la reine dauphine. Elle le vit jouer à la paume avec le roi. Elle le vit courir la bague, elle l'entendit parler, mais elle le vit toujours surpasser de si loin tous les autres et se rendre tellement maître de la conversation dans tous les lieux où il était, par l'air de sa personne et par l'agrément de son esprit, qu'il fit en peu de temps une grande impression dans son cœur. Il est vrai aussi que, comme Monsieur de Nemours sentait pour elle une inclination violente qui lui donnait cette douceur et cet enjouement qu'inspirent les premiers désirs de plaire, il était encore plus aimable qu'il n'avait accoutumé de l'être, de sorte que se voyant souvent, et se voyant l'un et l'autre ce qu'il y avait de plus parfait à la cour, il était difficile qu'ils ne se plussent infiniment. La duchesse de Valentinois était de toutes les parties de plaisir, et le roi avait pour elle la même vivacité et les mêmes soins que dans les commencements de sa passion. Madame de Clèves, qui était dans cet âge où l'on ne croit pas qu'une femme puisse être aimée quand elle a passé 25 ans, regardait avec un extrême étonnement l'attachement que le roi avait pour cette duchesse qui était grand-mère et qui venait de marier sa petite fille. Elle en parlait souvent à Madame de Chartres. « Est-il possible, madame, lui disait-elle, qu'il y ait si longtemps que le roi en soit amoureux ? Comment s'est-il pu attacher à une personne qui était beaucoup plus âgée que lui, qui avait été maîtresse de son père et qui l'est encore de beaucoup d'autres, à ce que j'ai ouï dire ?»« Il est vrai, répondit-elle, que ce n'est ni le mérite, ni la fidélité de madame de Valentinois qui a fait naître la passion du roi, ni qui l'a conservée. Et c'est aussi en quoi il n'est pas excusable. Car si cette femme avait eu de la jeunesse et de la beauté jointe à sa naissance, qu'elle eût eu le mérite de n'avoir jamais rien aimé, qu'elle eût aimé le roi avec une fidélité exacte, qu'elle l'eût aimé par rapport à sa seule personne, sans intérêt de grandeur ni de fortune, et sans se servir de son pouvoir que pour des choses honnêtes ou agréables au roi même, il faut avouer qu'on aurait eu de la peine à s'empêcher de louer ce prince du grand attachement qu'il a pour elle. Si je ne craignais, continua Madame de Chartres, que vous disiez de moi ce que l'on dit de toutes les femmes de mon âge, qu'elles aiment à conter les histoires de leur temps, je vous apprendrai le commencement de la passion du roi pour cette duchesse et plusieurs choses de la cour du feu roi qui ont même beaucoup de rapport avec celles qui se passent encore présentement.
Voilà, dans cet extrait, vous avez tout, les personnages clés de l'histoire qui ne vont pas tarder à s'entrechoquer pour le meilleur ou pour le pire, et les ressorts d'une intrigue qui vont constituer peu à peu les nœuds du roman. Les inspecteurs généraux de l'éducation nationale qui ont choisi et analysé ce texte pour vous soulignent le changement de statut de Mademoiselle de Chartres, qui en quelques pages devient une femme mariée. La princesse de Clèves ne commence vraiment à exister dans le roman comme héroïne que contrainte par cet engagement que son cœur n'a pas choisi. Ce mariage s'acheva, la cérémonie s'en fit au Louvre. Comment ne pas voir d'ailleurs dans cette formule lapidaire de l'auteur l'image d'un enterrement symbolique de la jeune femme ? La scène du mariage expédié, on voit naître en contrepartie entre la princesse et le duc de Nemours les premiers signes d'un amour courtois, idéal amoureux du Moyen-Âge, qui ne vaut que par le serment donné d'un amour sincère et durable. Une fois le mariage conclu, le prince de Clèves devient le pauvre mari dédaigné, comme le sera sous la plume de Flaubert Charles Bovary avec sa femme, la trépidante Emma, qui une fois mariée n'a pas tardé à déchanter. Tout, dans le langage de Madame de Lafayette, nous alerte sur les dangers à venir en soulignant les précautions prises par les personnages. La princesse est présentée comme une forteresse de vertu, imprenable. Elle avait un air qui inspirait un si grand respect et qui paraissait si éloigné de la galanterie, écrit l'auteur. C'est à ce moment-là que le duc de Nemours arrive. Madame de Clèves ne l'a encore jamais rencontré, mais les bruits de la cour l'ont informé et ont préparé cette impatience que monsieur de Clèves se plaignait de ne pas ressentir. Dès le début de la scène du bal qui va les réunir, on sait que la princesse espère être émue. Elle passa tout le jour des fiançailles chez elle à se parer. On ne sait alors toujours pas qui il est. Une périphrase le nomme mystérieusement « celui qui arrivait ». Mais elle est sûre que c'est lui, et lui est sûr que c'est elle. Il était difficile de n'être pas surprise de le voir quand on ne l'avait jamais vu, mais il était difficile aussi de voir Madame de Clèves pour la première fois sans avoir un grand étonnement. Notez le parallèle de l'auteur. Ces deux-là étaient faits pour se rencontrer, comme deux membres d'un couple primitif idéal. Elle cache sa surprise, il donne des marques de son admiration au pluriel. Le reste de la cour reprend son rôle de faire-valoir. La princesse de Clèves et le duc de Nemours sont alors le spectacle et dansent entourés d'un murmure de louanges, pantins d'une pièce qu'on leur fait jouer sans leur avoir demandé leur avis. Ils sont au cœur de la scène, mais ne sont plus les sujets des verbes. Ils retrouvent voix au chapitre dans la suite de la scène. On quitte alors le discours indirect des lignes précédentes, même s'ils ne s'adressent jamais la parole directement et se servent de la reine pour communiquer. Tout l'enjeu de ce dialogue consiste à faire les présentations par une sorte de jeu assez cruel de la part de la reine qui les interroge et les pousse à se confondre. Comment cacher son trouble? Une torture pour la princesse de Clèves en proie à tant d'émotions nouvelles. La fin de la scène du bal entérine les conséquences tragiques de l'événement ou plutôt ce qui venait de se passer. À nouveau une périphrase qui ne parvient pas à nommer exactement tout l'enjeu de cette rencontre. Deux autres personnages l'observent avec attention, le chevalier de Guise qui est amoureux d'elle et sa mère qui la surveille. Les termes de présage, de fortune sont autant de signes de mauvais augure pour ces témoins avisés. Eux semblent déjà savoir que l'histoire va mal se terminer. Malgré sa bonne éducation, la princesse de Clèves n'est pas parvenue à maîtriser ses sentiments. Sur son lit de mort, quelques pages plus loin, la mère de la princesse lui adresse cet ultime conseil. Vous avez de l'inclination pour Monsieur de Nemours, je ne vous demande point de me l'avouer. Vous êtes sur le bord du précipice, il vous faut de grands efforts et de grandes violences pour vous retenir. Songez ce que vous devez à votre mari, songez ce que vous devez à vous-même. Si quelque chose était capable de troubler le bonheur que j'espère en sortant de ce monde, ce serait de vous voir tomber comme les autres femmes, mais si ce malheur doit vous arriver, je reçois la mort avec joie pour n'en être pas le témoin. Si elle se défendait de l'avoir écrit, Madame de Lafayette parlait de ce roman comme d'un petit livre qui a couru, elle a en réalité ouvert avec la princesse de Clèves la voie à d'autres portraits de femmes, devenues par la suite aussi célèbres qu'elle. Des femmes piégées dans leurs conditions, obligées d'anesthésier leurs sentiments, obligées à vivre des vies diminuées d'épouses fidèles. Parmi elles, Eugénie Grandet, Madame Bovary ou encore Ariane de Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Pourtant, partagée jusqu'à la fin entre le péril de le voir et le désir de le voir, mais déterminée à se détacher de toute chose, la princesse de Clèves trace un sillage singulier et sublime, celui d'une amoureuse attachée jusqu'à la mort à éteindre sa passion. Et maintenant, tous à vos livres, lisez le roman de Madame de Lafayette en entier, c'est même chaudement recommandé. Le temps d'un confinement, à l'heure de la grande table, écoutez, révisez, une émission produite par France Culture avec le ministère de l'Éducation nationale. Un grand merci à Patrick Laudet qui a supervisé cette programmation. Merci à Olivier Barbaran, Philippe Le Guillou et Renaud Ferreira des Oliveira qui l'ont élaboré. Lecture coordonnée par Blandine Masson, réalisée par Sophie Haute-Picon, avec Bastien Varigaud à la technique. Mise en onde, Midia Portis-Guérin. Une émission à écouter du lundi au vendredi à midi sur l'antenne de France Culture ou à toute heure en réécoute et en podcast sur franceculture.fr. Demain, dans Écouter, Réviser, les contemplations de Victor Hugo. Très bel après-midi sur France Culture.